Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Excellent réveil à tous, bienvenue sur RMC, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot, on est tous ensemble, vous le savez, hein. Personne ne se réveille, personne ne roule tout seul le matin sur RMC, on est tous ensemble, quand je dis ça, bah, c'est avec toute l'équipe, on va commencer évidemment, oui elle me fait un grand sourire, par Estelle Gass, salut Estelle.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Dans la régie, ça va un tout petit peu mieux la voix Estelle.
Un tout petit peu
mais
mieux.
Mais oui, ça s'améliore, chaque jour un peu mieux, vous allez suivre en direct l'évolution de la voix d'Estelle, ça va un peu mieux. En régie, Yann est là avec Anna. Quentin vous attend déjà au standard avec Nico, mais oui, le 32-16 est ouvert. On va vivre cette journée tous ensemble et cette soirée, bah oui, c'est jour de match.
Oui, et oui, oui. Ça va, vous n'êtes pas trop tendu, t'es pas trop tendu, Charles. Ça va.
Oui, tu peux dire à vous, parce qu'on est quelques supporters de foot dans la rédaction cette nuit. Oui, les pronos, chacun y va de son prono. Il y a les fatalistes et ceux qui y croient. Est-ce que vous avez encore un peu d'espoir là ce matin, supporters de foot, supporters parisiens? N'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que le PSG va se qualifier? Tu y crois, toi, Estelle?
Bien sûr.
Bien, voilà, elle est gentille, Estelle. Je sais qu'elle dit ça pour me faire plaisir. Mais racontez-nous, n'hésitez pas. Et puis évidemment, c'est une soirée très spéciale qu'on va vivre sur RMC dès 18h. Soirée spéciale Barça-PSG sur RMC. Le match à suivre en intégralité. Ce sera au stade olympique de Montjouïc, hein, avec Christophe Dugarry, Duga, au commentaire ce soir. Et puis la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Bref. Tout ça se passe ce soir sur RMC, mais dès ce matin au 32-16, venez nous le dire, hein, est-ce que le PSG a une chance de se qualifier? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Vous aurez évidemment toute l'info ce matin en écoutant RMC, toute l'actu avec un débat, tiens, une question qu'on va vous poser très directement au 32-16. Face à la délinquance des mineurs, face à la violence des jeunes, le gouvernement a-t-il raison de s'attaquer aux parents?
Et oui, on l'a appris hier, info confirmée par le service politique d'RMC. Le gouvernement veut durcir la loi et mettre la pression aux parents de mineurs délinquants. Si leur enfant commet plusieurs crimes ou délits, alors pour ses parents, ce serait 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. À cela s'ajoutent donc des travaux d'intérêt général et des sanctions en cas d'absence aux audiences d'assistance éducative de leur enfant.
Oui, une loi, un projet de loi qui est travaillé en fait depuis les émeutes l'année dernière, mais l'actualité de ces dernières jour, il fait forcément écho, hein. Chemseddine, oui, Zakaria à Romans-sur-Isère, Samara du côté de Montpellier. Est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer aux parents? Est-ce que vous le constatez autour de vous, des parents défaillants, des parents dépassés, des parents qui ont lâché l'affaire? On parle beaucoup des mères isolées, j'ai envie de dire, où sont les pères aussi dans ces affaires? On les voit, on les entend très peu. N'hésitez pas ce matin à venir témoigner au 32-16. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les parents de mineurs délinquants? Est-ce que vous le voyez autour de vous, ces parents dépassés? N'hésitez pas, si vous tiens, vous travaillez peut-être aussi dans le monde de l'éducation. Là aussi, vous êtes en première ligne. On vous attend ce matin. Ça se passe au 32-16 pour vos témoignages sur Direct Studio aussi, hein. Je vois déjà les leftos, là, je peux citer, je sais pas, là, je vois Claire, Alexis, Laurent, bref, on est tous ensemble le matin pour démarrer la journée. Racontez-nous ce que vous faites réveiller aussi de si bonne heure, évidemment. Ça se passe tous ensemble sur RMC. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct, c'est votre journal présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Cette soirée exceptionnelle Ligue des Champions sur RMC. Après leur défaite 2-3 en quart de finale aller face au Barça, les joueurs du PSG n'ont que deux options, l'exploit ou la porte. C'est la première fois qu'un scénario alternatif d'urgence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est aussi précisément évoqué. C'était par Emmanuel Macron sur notre antenne. Et puis les parents doivent-ils payer pour les violences de leurs enfants? Un nouveau projet de loi est en préparation depuis les émeutes de l'an dernier. RMC vous dévoile les contours des sanctions.
Pas le choix, les Parisiens doivent l'emporter ce soir au stade Montjouïc pour filer en demi-finale.
Un but d'écart pour aller en prolongation et au tir au but, deux ou plus pour la qualification. Dans tous les cas, le principal objectif des Parisiens sera de repartir de Barcelone sans regret. Pour cela, il faudra un grand Kylian Mbappé. Fabrice Hawkins, le Parisien doit se rattraper après un match moyen la semaine dernière.
Oui, c'est peut-être le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le PSG. Le buteur est sous pression, mais pour son ami et défenseur Achraf Hakimi, l'attaquant star du Paris Saint-Germain sera au rendez-vous.
Ils sont très très bien, ils sont très motivés, comme toute l'équipe. C'est le moment de les grands joueurs de donner tout. et de sortir tout de ce qu'on a à l'intérieur pour prendre la victoire.
Luis Enrique ne veut pas mettre en avant un joueur plus qu'un autre.
Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner. Tous ceux qui font partie du PSG.
Car le champion du monde est important, mais la réponse du club de la capitale sera avant tout collective, explique l'entraîneur espagnol.
Ce deuxième match est différent car nous n'avons pas joué entre les deux et nous avons eu le temps d'analyser et essayer de nous améliorer. Nous devons nous surpasser et montrer une meilleure version de nous-mêmes. Nous ne spéculons pas et nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation.
Kylian Mbappé sait qu'il est très attendu après son match raté à l'aller. Le Barça est un adversaire que le Parisien adore. Il a déjà marqué 4 buts face aux Catalans.
Et cette soirée spéciale Barça-PSG est à vivre sur RMC dès 18h avec le match en intégralité en direct du Stade Olympique de Montjuïc avec Christophe Dugarry au commentaire, la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Match également à suivre à la télé sur RMC. RMC Sport 1. À presque 100 jours du lancement des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a visité le chantier du Grand Palais sous la nef, là où se dérouleront les épreuves d'escrime et de taekwondo, pour marteler que tout sera prêt. Même si le chef d'État a levé le tabou, en cas de menace terroriste, deux solutions de repli se dessinent. La cérémonie pourrait être rapatriée au Stade de France, mais les organisateurs insistent. Romain Cluzel, c'est le plan A qui reste privilégié.
On peut jouer à se faire peur, mais la cérémonie aura bien lieu sur la scène. Message répété toute la journée par l'exécutif et les organisateurs, un peu pris de court par les annonces détaillées du président. Une cérémonie limitée et statique au Trocadéro est bien étudiée en cas de menace trop importante, mais le Stade de France n'était jusqu'ici jamais évoqué. En réalité, il s'agit d'une solution extrême en cas de scénario catastrophe, selon plusieurs sources, avec une cérémonie réduite au strict minimum, sans spectacle, dans un lieu fermé, et le Stade de France serait une hypothèse parmi d'autres lieux olympiques. Un scénario qui a 99,9% de chances de ne pas exister selon une source gouvernementale. Plusieurs interlocuteurs en sont persuadés. Emmanuel Macron a joué la carte de la transparence totale pour tenter de rassurer la population, quitte à relancer la perspective de renoncer à la cérémonie prévue.
En Israël, l'heure semble aux préparatifs d'une riposte deux jours après les attaques sans précédent de l'Iran. Le chef d'état-major israélien promet des représailles mais cherche le bon dosage pour ne pas laisser l'attaque iranienne sans réponse mais ne pas se mettre à dos les alliés dont l'historique allié américain qui exhorte à éviter un embrasement régional. En pleine chasse aux économies en France, le gouvernement prépare un coup de rabot sur les aides à l'embauche d'alternants. Le ministère du Travail a envoyé aux partenaires sociaux un projet de décret visant à supprimer les 6 000 euros d'aide instaurée pendant le Covid. Elle ne sera plus versée que pour les contrats d'apprentissage, soit la moitié des alternances. Un très mauvais signal, alerte les employeurs contactés par Nicolas Trénaud.
Aujourd'hui, l'entreprise de travaux publics de Seine-Saint-Denis, Dubrac TP, compte 15 alternants dits contrats pro. Le patron Francis Dubrac les recrute pour soulager ses équipes, fortement incitées par cette prime, désormais en péril.
C'est pas une lourde charge dans l'entreprise compte tenu des aides. Ça me tient à cœur et puis il y a des pépites qui émergent. Maintenant, s'il n'y a plus d'aide, on va y réfléchir à deux fois.
Car sans ce coup de pouce, estimé pour cette société à près de 50 000 euros par an, ce patron ne voit qu'une seule solution.
On va moins approcher de jeunes. On va faire attention maintenant à n'en prendre que uniquement pour remplacer le turnover de l'entreprise, du bras m'en tombe.
Et cela pourrait aussi porter préjudice aux jeunes. Les opportunités seront plus rares, souligne François Asselin, le président de la Confédération des PME, qui dénonce un projet brutal.
C'est plutôt une mauvaise surprise et c'est pas un bon signal. On est tout à fait conscient des problèmes importants des finances publiques, mais cibler l'alternance, c'est peut-être pas le bon message. Le voir royal pour accrocher les wagons du monde professionnel, revenir par une telle décision sur ce succès, ça peut être problématique, oui.
Ce président de la puissante organisation patronale rencontre ce soir le Premier ministre et compte lui demander de ne pas publier le décret.
Faut-il punir plus sévèrement les parents d'enfants délinquants ? Le projet de loi du gouvernement en réponse aux émeutes se précise. Des amendes, des stages de responsabilisation, des peines de prison alourdies en cas de récidive. Voici les pistes avancées. Des mesures d'affichage pour la présidente du syndicat de la magistrature, Kim Reflet. Pour restaurer la parentalité, selon elle, il faut des moyens et pas le bâton.
Ce n'est pas en culpabilisant les parents, en les sanctionnant financièrement, qu'on va les restaurer dans leur capacité à faire autorité sur leurs enfants. Ça n'est pas du tout dissuasif pour les enfants qui n'ont pas en tête les règles de responsabilité parentale avant de commettre des délits. On sait que ce qui fonctionne, c'est l'éducatif, que l'éducatif, c'est du temps long, de l'insertion, donc des investissements très coûteux. Le gouvernement, eux, ils veulent clairement afficher un visage de fermeté. Ce qu'on sait, nous, comme professionnels, c'est que ce sont des solutions qui ne fonctionnent pas.
Et vous, dites-nous ce matin au 32-16, vous entendez, hein, Kim Reflet du syndicat de la magistrature qui dit ça ne fonctionne pas de s'en prendre aux parents, et pourtant c'est le projet du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette méthode, durcir les sanctions contre les parents de mineurs délinquants? Est-ce que vous le constatez autour de vous, ces parents défaillants, ces parents trop absents, ces parents dépassés par leurs ados, par des mineurs de plus en plus violents, et est-ce que c'est la bonne méthode, voilà, de s'en prendre aux parents, d'infliger des, bah, on parle de travaux d'intérêt général, de peine de prison, d'amende durcie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de s'en prendre aux parents? Venez nous le dire ce matin, ça se passe au 32-16 en direct pour témoigner, et puis tous vos messages évidemment sur l'appli RMC avec Direct Studio.
Direction Anduze cet été pour les sinistrés des inondations du Nord. Après les pluies diluviennes dans le Pas-de-Calais, le camping de la cité du Gard aux portes des Cévennes offre des vacances à 30 familles de Blandec. Après un tirage au sort parmi 47 foyers pour gagner ce séjour d'une semaine fin juin, des tirés au sort très émus de pouvoir s'évader de leur tracas lié aux travaux, aux assurances. Reportage de Léonie Guilbeault et Florine Curec de BFM Grand Littoral.
Le tirage au sort pour désigner les familles gagnantes est un peu artisanal.
Premier gagnant, le numéro 46.
Des numéros tirés dans une boîte à chaussures, mais à la clé, beaucoup de bonheur.
Vous avez gagné. Après tout ce qui s'est passé, un peu de soleil, ça pourra que faire du bien.
Et ça, Magali le sait, les larmes aux yeux et son fils dans les bras, elle est sur son petit nuage.
On vote bien au soleil. Je me vois déjà.
Inondée deux fois, elle ne pensait pas pouvoir partir en vacances en famille cette année.
Je suis contente, je suis heureuse. Décompresser, puis s'amuser, puis plus penser à rien. Ça va faire du bien.
Ça va faire du bien aussi à Frédéric, relogé dans un mobilhome depuis l'inondation de sa maison.
C'est sûr que ça va être pour un deuxième mobilhome, mais là ça va être au soleil, ça va être des vacances. Excusez-moi, je suis très ému. Ça va être pour un beau moment en famille.
Ce sont Olinda et Frédéric, les patrons du camping Bel Été, qui ont voulu offrir 30 séjours, eux-mêmes victimes d'inondations dans le Gard en 2020. Ils ne se sont pas posé de questions.
On n'a pas regardé le coût ou le quoi ou le comment. Non. On a plus fait pour qu'ils aient un petit peu de baume au cœur, qu'ils aient un petit moment de répit avant de retourner à la réalité.
Les gérants lancent maintenant un appel aux transporteurs qui pourraient prendre en charge le voyage de ces familles qui, pour la plupart, ont aussi perdu leur voiture dans ces inondations.
Un beau geste pour les sinistrés de Blandec dans le Pas-de-Calais qui prendront la direction d'Anduze cet été.
Ben voilà, une belle histoire, ça fait du bien, on en avait besoin ce matin dans toute cette actualité. Merci Thomas Chtel, qu'on retrouve tout à l'heure à 5h30 pour un prochain journal en direct sur RMC. Évidemment, toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC et ça se passe avec vous au 32-16. Tiens, je vois déjà un premier coup de fil de Raph, notre conducteur poids lourd, c'est ça Raph? Salut Raph.
Bonjour.
Salut tout le monde, ouais.
Salut Raph, ben alors oui, j'allais dire Raph du côté de Mâcon, mais peut-être déjà sur la route à cette heure-ci.
Ouais, direction le port de Sète.
Ah oui, ça fait un peu de route ça depuis Mâcon, Raph qui traverse la France au volant ce matin avec RMC. Et alors Raph, tiens, ce qui vous a fait réagir ce matin, c'est le débat du jour sur la violence des ados, des mineurs et cette réponse du gouvernement qui voudrait durcir les sanctions contre les parents des mineurs délinquants. Est-ce que c'est la bonne méthode, Raph? Est-ce qu'il est temps de responsabiliser et surtout de sanctionner un peu plus les parents?
Ah, carrément, ouais. Moi, j'habite un quartier au sud de Mâcon et quand on va au café et puis au kebab et tout, ben on en parle avec ce qu'on pourrait appeler nous maintenant les grands frères. J'ai que 39 ans. Et ben on n'arrive même plus à se faire respecter par les minots, quoi. Ils ont 10, 12 ans. Ben ils nous envoient chier, ils nous insultent, les machins. Puis on va pas lever la main sur des gamins. Mais il y a un moment, on peut plus rien dire. Et
Raph, oui, vous parlez d'enfants de 10, 12 ans. J'ai presque envie de dire, c'est pas de leur faute, là. Où sont les parents? Que font les parents quand il y a des gamins de 10, 12 ans?
Justement pour ça. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait taper un peu plus fort sur les parents, que ce soit financièrement, sur des choses qui vont au niveau des aides sociales, les salles de sport, les machins. Enfin, faut punir, faut sanctionner, que les parents reprennent les mômes à la maison. Qu'ils ont entre 6 et 8 ans, à 22 heures, ils sont sur des trottinettes dans la rue, en train de faire n'importe quoi, sans gilet, sans lumière.
Entre 6 et 8 ans?
Ah oui, oui. Allez, maximum 8 ans.
Oh là là, oui, ils sont dehors à 22h sans.
C'est impressionnant, quoi.
Sans parents. Donc, oui, c'est même pas des parents, laxistes, c'est des parents qui ont lâché l'affaire, là.
Ils n'ont rien à faire, clairement, quoi. Ouais, et puis, nous, avec les collègues, là, quand on est au quartier, bah, on n'a pas grand chose à dire, parce que sinon, ils nous envoient chier, puis après, ils vont nous crever les pneus ou rayer les bagnoles.
Oui, donc on en vient. Mais alors, c'est peut-être même des parents qui ont peur de leurs enfants, désormais.
C'est possible.
Oui, donc pour vous, c'est la bonne méthode, en tout cas, convoquer les parents, durcir les sanctions.
Enfin, serrer la vis, ouais. Puis laisser peut-être aussi les instituteurs et les profs reprendre un peu d'autorité sur les mômes, quoi.
Oui, ça aussi c'est compliqué. C'est, s'il n'y a pas d'autorité à la maison, c'est compliqué ensuite pour ses
enfants.
Oui,
mais quand un instituteur dit quelque chose à un enfant, faut pas que les parents ils aillent contre l'instituteur, contre le rectorat, contre tout le monde, quoi.
Exactement. Il y a peut-être que si l'instituteur est un peu plus respecté par les parents, il le sera beaucoup plus ensuite par les enfants. Mais merci Raph de votre témoignage, c'est assez édifiant, hein, parce que c'est vous le voyez, vous le constatez, ces enfants de 6-8 ans, vous nous dites dehors le soir à 22h sans parents, seuls et on va le dire assez insolent, forcément, s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas d'autorité qui se permette de répondre aux adultes, quoi.
Ah, c'est ça.
Ouais, non, mais c'est important de le raconter parce que c'est à cette réalité que le gouvernement tente de répondre. Et pour vous, c'est la bonne méthode, en tout cas, de mettre les parents devant leurs responsabilités, de les sanctionner, ces parents défaillants. Merci, Raph, d'être venu en témoigner ce matin. On va rouler avec vous ce matin jusqu'à 7, c'est ça, hein. Il vous reste combien d'heures, là, de volant?
Ouais, pas grand chose, 3 heures. Mais après, ça va être la nuit qui va être longue. On commence à transporter les morceaux du tunnelier de Toulouse.
Oh là, ah oui, bah alors ça aussi, parce que c'est vrai que, alors Raph, vous conduisez un convoi exceptionnel.
Convoi exceptionnel, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est plus que poids lourd, là, c'est
méga lourd, ouais.
C'est très très long, méga lourd, voilà, le méga lourd Raph de bon matin sur RMC, bonne route, Raph, on roule avec vous évidemment sur RMC le matin. Vous faites comme Raph, hein, venez en témoigner ce matin. Est-ce que comme Raph, vous le constatez peut-être autour de vous, dans votre quartier, comme nous le raconte Raph, ces mineurs, ces ados, ces enfants de plus en plus jeunes, de plus en plus livrés à eux-mêmes, sans cadre, sans autorité parentale et forcément beaucoup plus insolents, voire violents. N'hésitez pas à venir en témoigner, ça se passe ce matin au 32-16. Et puis évidemment, est-ce que c'est la bonne réponse de la part du gouvernement de vouloir durcir les sanctions contre les parents? Là aussi, c'est vous qui allez nous le dire. À 5h13 sur RMC, on n'oublie pas aussi qu'on joue. Mais oui, les JO approchent, vous le savez, c'est dans 100 jours. Vous êtes bien sur RMC, la radio officielle de ces Jeux Olympiques qui approchent. On a hâte. Et d'ailleurs, on a gardé, oui, les meilleures places pour vous, les 100 meilleures places, les 100 dernières places pour les JO. Elles sont à gagner sur RMC.
Et oui, dans chaque émission de RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4, nage et bien plus encore, Charles.
Oui, on a deux places là avec Estelle à vous faire gagner. On va vous dire la vérité, on a quatre places. Il faudra choisir tout à l'heure à 6h20. Si vous êtes tiré au sort, vous allez choisir l'épreuve à laquelle vous voulez assister. Pour ça, il suffit d'envoyer un petit SMS maintenant. Vous envoyez Paris 2024, Paris 2024 par SMS au 732-16. Et là, l'une d'entre vous sera tirée au sort et sera avec nous tout à l'heure en direct à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Et à 5h15, tous les matins, votre rendez-vous avec le service police-justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Charles, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez l'affaire de ce policier de Saint-Brieuc, condamné pour avoir harcelé un de ses collègues et même brûlé sa voiture.
Et oui, au tout départ, ce sont leurs cœurs qui se sont enflammés. Une histoire sentimentale, puis amicale, entre un fonctionnaire expérimenté de 45 ans et un jeune collègue, policier adjoint de 24 ans. Mais au fil du temps, leur histoire a tourné au vinaigre et viré au harcèlement. Le plus âgé des deux est accusé d'avoir suivi un peu partout son collègue, ce qu'il a contesté à l'audience. Pourtant, les vérifications téléphoniques de l'IGPN montrent qu'il était régulièrement sur la route de son ex-ami, devant chez lui, devant chez sa mère, devant chez sa grand-mère aussi, ou encore sur le même lieu de vacances ou le même lieu de soirée. Un hasard selon le prévenu, sauf peut-être la fois où il a été retrouvé caché dans une mare près du domicile de la victime qui avait fini par appeler les forces de l'ordre. Summum de cette affaire, le policier est aussi soupçonné d'avoir incendié la voiture de son jeune collègue. Pour tous ces faits, hier, le tribunal de Saint-Malo, où l'affaire avait été dépaysée, a condamné l'officier de police judiciaire à 18 mois de prison avec sursis et à être radié de la fonction publique, précise Ouest France. Quant à sa victime, c'est un peu particulier. Le jeune fonctionnaire, lui, est en prison, pas pour cette affaire, non, rien à voir, mais il est mis en examen et provisoirement incarcéré dans une sombre histoire de cambriolage, pas encore jugé. Enfin, en attendant, dans sa cellule, il échappe au harcèlement de son ex-collègue.
Merci Guillaume, le récit de Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC
Faut-il s'attaquer aux parents de mineurs délinquants ? C'est le projet du gouvernement qui veut alourdir les sanctions pour ces parents. Une volonté née après les émeutes de l'été dernier, mais depuis les affaires de violence impliquant des mineurs se multiplient. Chemsedine à Viry-Châtillon, le passage à tabac de Samara à Montpellier, il y a eu Zakaria aussi à Romans-sur-Isère. Alors le gouvernement a-t-il raison de vouloir sanctionner plus durement les parents de mineurs délinquants ? Vous êtes parents, vous êtes éducateurs au contact de ces jeunes. N'hésitez pas à nous raconter ce que vous constatez au quotidien. Est-ce qu'il y a un vrai laisser-aller du côté de certains parents et faut-il plus sévèrement les sanctionner ? Vous venez nous le dire dans un instant au 32-16. Je vois déjà Alexis là, qui est papa d'ado et qui veut témoigner dans un instant au 32-16. Tout de suite, c'est aussi RMC qui s'engage avec vous. Guillemette Franquet vient en aide à un fils de Harki qui n'a toujours pas reçu son indemnisation.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h18.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Guillemette Franquet qui nous rejoint ce matin. Bonjour Guillemette.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Alors Guillemette, ce matin vous venez en aide à Rachid. Rachid qui est un fils de Harki.
Oui, Rachid qui, comme tous les Harki et leurs descendants, a droit à une indemnisation qu'il n'a toujours pas touchée. Les Harki, ce sont ceux qui ont travaillé pour l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Considérés comme des traîtres, certains ont été rapatriés en France et parqués dans des camps. C'est pour réparer cette injustice qu'une indemnisation a été votée par la France en 2022. Mais cet argent, donc, Rachid l'attend toujours.
Quand je leur demande pour quelle raison, ils me répondent en règle déjà en priorité la première génération. Ben, je suis d'accord, mais pourquoi mes sœurs et mes frères, ils ont touché et que moi, ça n'a pas été réglé.
Oui, ça paraît assez absurde, d'autant qu'on imagine que cette somme serait bien utile pour Rachid.
Oui, Rachid a deux grands-fils, il aimerait pouvoir les aider pour leur permis, leurs études, mais surtout, c'est une réparation, un moyen de reconnaître l'humiliation qu'ils ont vécue pendant ces années dans ces camps. D'ailleurs, même la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu un avis sur la question il y a deux semaines, même pour la CEDH donc, les montants restent insuffisants quand on regarde les préjudices subis. Rachid, lui, il a une estimation de la somme.
C'est entre 16 000 et 18 000 euros. Moi, j'aimerais que ce soit réglé, quoi. Après, ça a toujours été comme ça. Les Harki, c'est une épine dans le pied du gouvernement.
Et alors, est-ce que vous avez réussi à l'aider ?
Alors, nous, on a contacté l'Office national des combattants et des victimes de guerre, l'ONAC. Ce sont eux qui gèrent les dossiers d'indemnisation des Harki. On nous explique que les délais peuvent être longs. 15 000 dossiers ont déjà été traités depuis la loi de 2022. Il leur en reste 19 000 à traiter. Mais pour Rachid, bonne nouvelle, son dossier va être à nouveau regardé de près. Et nous, évidemment, on continue à l'accompagner.
Évidemment, comme dans tous les dossiers, vous allez suivre celui de Rachid. Et on rappelle l'adresse pour vous contacter, Guillemette et toute l'équipe. Une adresse mail RMC avec vous, @rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
Pour tous ceux qui sont en capacité d'exercer l'autorité parentale, nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants. Et il existe une infraction que le code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende chaque fois que les parents, par leur désinvolture coupable, mettent en péril l'éducation, la moralité et la sécurité de leurs enfants.
Vous venez d'entendre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, c'était il y a quasiment un an, au lendemain des émeutes, un appel aux parents pour qu'ils tiennent leurs enfants, leurs ados. Et aujourd'hui, le gouvernement planche donc sur un nouveau projet de loi pour alourdir les sanctions contre les parents de mineurs délinquants.
Oui, ils risqueraient désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. À cela s'ajouteraient des travaux d'intérêt général et des sanctions en cas d'absence aux audiences d'assistance éducative de leurs enfants.
Oui, l'objectif, c'est donc de restaurer la parentalité, l'autorité parentale. Est-ce que c'est aux parents en fait de payer les conneries de leurs enfants,
bêtises, oui.
plus que des bêtises. Des faits parfois extrêmement graves, extrêmement violents. Faut-il faire payer les parents, les sanctionner plus durement? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. On va accueillir tout de suite Alexis. On va grimper dans le nord, c'est ça? Bonjour Alexis.
Bien le bonjour.
Bonjour Alexis, du côté de Gravelines, c'est ça, Cheminot, Alexis?
Oui. C'est bien ça.
Et le veto pour le boulot, et surtout, ce matin, c'est le papa qui nous appelle, c'est ça Alexis?
Oui, c'est pas le cheminot qui vous appelle, c'est le papa. Donc je suis papa de 3 enfants, dont 2 ados. Mm-hmm. Et je fais aussi partie de ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves et je suis délégué de parents d'élèves, ce qui fait qu'au collège de mes enfants, on est relativement présent avec ma femme.
Ah bah alors racontez-nous, est-ce que dans ce collège, vous constatez de plus en plus de violence, alors j'allais dire d'incivilité, parce que ça commence par là, ça commence par les mots, on parle beaucoup aussi du harcèlement, des réseaux, mais il y a aussi la violence, des mineurs aujourd'hui de plus en plus délinquants.
Voilà, on a eu un exemple hier matin où on a accompagné des classes de cinquième et j'ai dû m'interposer entre deux gamins de cinquième, donc ils ont 12 ou 13 ans, qui s'amusaient à mettre des coups de poing dans le dos des, entre guillemets, copains. Et quand je me suis mis entre deux, donc je les ai écartés les gamins, et je me suis fait insulter copieusement par un gamin de 12 ans et qui a été voir mon fils l'après-midi même disant « Ouais, bah tu diras de ma part à ton père que c'est un bâtard ».
Oui, donc en plus, il s'en prend à votre fils, ça n'a aucun sens. Mais surtout, Alexis, j'ai envie de dire, si ce gamin de 12 ans se permet de, alors faut d'insulter un enfant, c'est grave, d'insulter un adulte, surtout de vous insulter, Alexis, où sont les parents de ces enfants ?
Ben justement, on en a discuté avec les professeurs ce matin. Les parents sont dépassés. Depuis ce que j'appelle moi l'enfant, hein, vous savez, l'éducation positive, on ne peut plus rien dire à un enfant. Ben les gamins se pensent tout permis, ils pensent que tout leur est dû et que c'est nous, les adultes, à se plier à leur volonté. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Enfin, on est parti dans la politique de l'enfant. Moi, où c'est l'enfant qui a raison. Le pauvre professeur qui va dire quelque chose à un enfant, je vais reprendre ce que disait Raph tout à l'heure.
Oui, Raph, tout à l'heure, au 32-16, vous disiez le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment un prof peut avoir de l'autorité sur les élèves si dès qu'il met une sanction, il a tout de suite les parents qui viennent contester la sanction?
C'est ça, même en conseil de discipline, les parents, au lieu d'entre guillemets se faire tout petit parce que leur enfant a fait des grosses bêtises, et ben ils se mettent aussi à insulter les professeurs.
Mais c'est tout bête, Alexis, mais je vais vous dire, ils ont pas honte, ces parents, quand vous les voyez. Moi, je suis parent aussi. Si je suis convoqué parce que mon enfant a fait plus qu'une bêtise, a été violent, a dérapé, etc., je vais plutôt avoir honte plutôt qu'être fier et m'opposer à l'autorité, quoi.
Mais ils ont pas d'autorité, les parents. C'est les enfants qui ont l'autorité sur les parents.
Mmh. Oui, ils ont peur de leurs enfants.
Il y a ce qu'ils ont peur, mais dans la mesure où maintenant... je ne suis pas pour la fessée, loin de là. Hein, mais vous allez lever la main sur un enfant, même sans le toucher, il va dire si tu me touches, je vais porter plainte.
Mais alors, est-ce que c'est le bon message, justement, venons-en au concret, au texte du gouvernement qui prévoit de durcir les sanctions contre les parents? Quand un mineur multiplie les délits, et ben dans ce cas-là, ce sont désormais ses parents qui pourront être beaucoup plus sévèrement sanctionnés. On parle de travaux d'intérêt général, d'amende, de peine de prison. Est-ce que voilà, il faut que les parents aient peur d'aller en prison pour qu'ils se mettent enfin à tenir leurs ados, quoi?
Peut-être, mais pour tout ce qui est travaux d'intérêt généraux, moi je trouve que c'est une très bonne idée, mais que les parents le fassent avec les enfants. Faut que les enfants aussi aillent mettre les mains dans le cambouis avec les parents. Et peut-être que là ils réfléchiront deux fois avant de faire une connerie.
Une sanction familiale quelque part.
Oh, oui.
Ouais, non, mais ça s'entend très bien. Merci Alexis d'être venu témoigner parce que c'est très parlant ces exemples, voilà, du quotidien. Vous la voyez tous les jours. J'ai envie de dire, surtout si vous êtes parent d'élève dans un délégué des parents dans un collège, forcément vous y êtes confronté et vous voyez ces parents, oui, vous dites dépassés, mais c'est même presque apeuré par leurs ados qui n'osent plus, en tout cas, affronter leurs ados, même quand ils sont convoqués par un collège, quand ils sont convoqués en conseil de discipline, etc. C'est très parlant ces exemples. Merci Alexis d'être venu en témoigner. Bon, je vous mets pas en retard pour le boulot. Je sais pas à quelle heure vous démarrez votre journée de cheminot, Alexis.
Ah ouais, je l'ai terminé. Enfin, je viens d'arriver à l'atelier, je me change et je rentre à ma maison.
Eh ben parfait. Ben on vous raccompagne aussi. On est là pour ça le matin. On roule avec vous jusqu'à la maison, Alexis. Merci d'être venu témoigner au 32-16. Faites comme Alexis ce matin. Hein. Vous êtes parent, prof, éducateur. Vous constatez évidemment cette violence des ados, des mineurs. Et dites-nous, est-ce que c'est la bonne méthode? Faut-il sanctionner plus durement les parents d'enfants délinquants? Ça se passe au 32-16.
RMC Charles Matin.
Et puis dans moins de 5 minutes maintenant, c'est votre journal de 5h30 sur RMC avec à la une la flamme olympique allumée aujourd'hui en Grèce. On va retrouver notre envoyé spécial qui est sur place du côté d'Olympie. Et puis tout de suite, votre pouvoir d'achat sur RMC, c'est la solution conso avec Estelle.
Eh bien j'emmène vos enfants en vacances aujourd'hui.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin.
Charles Magnin.
Et comme chaque matin sur RMC, on s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Et oui, en ce moment, vous êtes peut-être en train de penser à l'été, réserver les vacances. Et on n'a pas tous deux mois de vacances comme les enfants, comme les ados. Il va falloir les occuper. Et ce matin, avec toi, Estelle, on va parler des colonies de vacances. Mais oui, le Pascolo, c'est nouveau. Le Pascolo est disponible depuis hier. Alors Estelle, explique-nous comment ça fonctionne ce Pascolo.
Eh bien, je te signale tout de suite, Charles, que tu ne pourras pas en profiter puisque ce sont les enfants de 11 ans qui pourront partir en vacances grâce à ce pass, à condition donc d'être éligible. Pour ça, le foyer doit cumuler 4000 euros de revenus nets par mois. 80% de ces enfants devraient donc y avoir accès selon les calculs du ministère. Pour les familles intéressées, le site jeunes.gouv.fr met à disposition un catalogue de colonies de vacances éligibles au Pascolo. Alors attention au choix des destinations, seuls les séjours en France sont concernés.
Voilà les conditions pour y avoir accès, mais ensuite combien je peux espérer toucher?
Eh bien ça varie en fonction de vos ressources, mais comptez entre 200 et 350 euros. Cette aide peut aussi se cumuler avec d'autres dispositifs, si par exemple votre comité d'entreprise finance lui aussi certains séjours. Et puis une fois que vous avez sélectionné la colonie de vacances, le montant de l'aide sera directement déduit de votre facture.
Oui. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et à 5h29 sur RMC, on se fait plaisir. Tiens, on va retrouver le meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud qui, hier matin sur RMC, anticipait l'interview d'Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, on est aussi 5 ans après l'incendie de Notre-Dame. Mmh. La cathédrale est bientôt finie. Et est-ce que ce matin, Emmanuel Macron va nous annoncer qu'il a mis sa petite touche perso? C'est-à-dire, je voulais une cathédrale avec une touche de notre époque. Il y aura un rooftop avec un espace de coworking végétalisé, avec des baby-foot, des poufs, un food truck qui vend des hot-dogs.
Et on va retrouver Arnaud tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin.
RMC Charles Matin.
Excellent réveil à tous. Bon courage si vous êtes déjà au boulot, déjà sur la route. On est tous ensemble le matin pour vous informer. Toute l'actu, c'est votre journal présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. D'Olympie à Marseille, la flamme olympique entame son périple de 68 jours. Rallumage en Grèce ce matin avant son arrivée sur le Vieux-Port le 8 mai prochain. 36 millions d'euros, le salaire astronomique de Carlos Tavares. Le patron de Stellantis fait à nouveau polémique. Et le PSG joue gros ce soir face au FC Barcelone. Match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Ça se passe sur le terrain des Catalans et sur RMC.
C'est l'événement ce matin. La flamme olympique va être allumée dans quelques heures en Grèce.
Dans le sanctuaire d'Olympie, dans le Péloponnèse, où se déroulaient les Jeux antiques à 100 jours du lancement des épreuves, le grand relais va commencer jusqu'à Marseille et puis Paris avant l'ouverture le 26 juillet. Julien Richard, vous êtes en Grèce pour RMC. C'est un moment fort des Jeux, un moment chargé de symboles.
Oui, sur les ruines du temple d'Héra, vieux de 2600 ans, site des premiers Jeux antiques. À 11h, comme le veut la tradition, la grande prêtresse tendra un flambeau face à un miroir parabolique et les rayons du soleil feront jaillir le feu olympique.
L'allumage de la flamme, c'est là où tout commence.
Alain et Jean-Michel ont spécialement fait le déplacement de Bretagne.
L'allumage de la flamme à Olympie, ça a une valeur symbolique forte auquel nous, on voulait absolument assister.
On porte les valeurs à la fois de l'Olympisme et puis on les valeurs de la France.
Une cérémonie qui fait la fierté des Grecs.
La paix pour tout le monde.
Angelo, 80 ans, né à Olympie.
Pas les guerres. Rien du tout. And this is the history.
C'est l'histoire, l'esprit de la flamme, c'est la paix, c'est l'esprit olympique.
The Olympic spirit.
La flamme, symbole de la trêve olympique, souhaitée par le président du comité international olympique, Thomas Bach.
On vit des moments très difficiles dans le monde. C'est pourquoi nous espérons que cette cérémonie va inspirer le responsable de se souvenir de la trêve olympique.
Et autre symbole à la fin de la cérémonie, un premier relayeur grec transmettra la flamme à Lorma Manodou, championne olympique du 400 mètres nage libre il y a 20 ans à Athènes.
En France, face aux violences des jeunes, le gouvernement veut, je cite, restaurer la parentalité avec un projet de loi pour punir plus sévèrement les parents d'enfants délinquants. Des peines de prison alourdies, des stages de responsabilisation, des amendes sont prévues dans le texte en réponse aux émeutes de l'an dernier et aux récents drames de Samara, de Chemseddine, de Zakaria. Une violence qui concerne également le quartier du Tonkin à Villeurbanne, où se sont rendus Vincent Chevalier et Lucille Pascanet pour RMC.
Le Tonkin, quartier sensible de la ville, est parmi les auteurs de délits, parfois des gamins.
Des jeunes de 12 ans, 13 ans qui traînent avec les vendeurs de trucs.
Pour Amel, si les parents sont responsables, ils ne peuvent pas être coupables. Elle prône plutôt le dialogue.
Aller dans les maisons des jeunes, envoyer quelqu'un de professionnel pour parler avec eux et tout.
Pour Aïcha, les parents jouent un rôle fondamental, mais certains sont dépassés, tous ne doivent pas être pénalisés.
Vous allez voir de toute façon la différence entre des parents qui sont
sont là pour leurs enfants et des parents qui laissent aller.
D'autres sont plus directs, pas de pitié, dit Josiane.
Je serais pour qu'on les éduque un peu et qu'on les sanctionne.
Selon elle, les sanctions financières seraient les plus efficaces.
Toucher à l'argent, oui, parce que c'est facile. On ouvre la poche, ça tombe dedans et les enfants sont dehors, des fois livrés à eux-mêmes.
Restaurer la parentalité, pourquoi pas? Mais les outils existent déjà, d'après Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats.
Il suffit qu'on se donne les moyens, en termes notamment de personnel, et quand je dis personnel, je pense en termes d'éducateurs, mais également de juges et de greffiers.
Le projet de loi devrait être débattu au Parlement avant l'été.
Alors, sanctionner les parents pour combattre la violence des enfants, à vous de nous dire, est-ce une solution? On attend vos appels au 3216. La communauté internationale suspendue à la réponse de Tel Aviv après l'attaque sans précédent de Téhéran ce week-end. La riposte semble l'option privilégiée par Israël. L'armée est prête, malgré les appels à éviter l'embrasement qui pourrait avoir de très sérieuses conséquences économiques, confirme Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste de l'énergie.
Bruno Le Maire en a raison. Dans le scénario catastrophe que nous ne pouvons pas exclure, qui oblige les Iraniens à bloquer le détroit d'Hormuz, où passe quand même à peu près un quart du pétrole mondial, ce serait un choc pétrolier, d'un choc gazier aussi. Le Qatar est un très important producteur de gaz naturel liquéfié. Ce GNL sort lui aussi par le détroit d'Hormuz. À ce moment-là, on change totalement de dimension et l'impact direct en est considérable pour l'économie française.
Prudence sur les routes. Le mois de mars a été particulièrement meurtrier. 254 Français ont été tués, dont 3 usagers de trottinettes et 37 piétons, un chiffre en hausse de 31% par rapport à mars de l'année dernière. Ne manquez pas à 6h10 sur RMC, Pierre Lagache. Il est vice-président de la Ligue contre les violences routières. Il sera l'invité de Charles Matin. Le constructeur automobile Stellantis, groupe des marques Peugeot, Citroën, Fiat, tient son assemblée générale aujourd'hui et le salaire du patron Carlos Tavares va faire débat. 36 500 000 euros. Des sociétés de conseil aux actionnaires recommandent d'ailleurs de voter contre ces émoluments, 7 fois plus élevés que les autres patrons du constructeur auto européen. Il faut dire que les résultats du groupe Stellantis sont excellents, plus 11% de bénéfices l'an dernier, mais dans les usines, cette rémunération ne passe pas, Marion Gauthier.
C'est l'écart de rémunération entre le patron et ses salariés qui dérange Jérôme Boussard, le secrétaire général CGT de l'usine de Sochaux.
Quand on voit que M. Tavares va toucher 100 000 euros par jour et qu'il continue à casser les emplois et à mettre en concurrence les salariés à travers le monde chez Stellantis, c'est complètement indécent.
Sans parler des dernières négociations salariales, les augmentations ne sont même pas au niveau de l'inflation, regrette le délégué central CFDT Benoît Vernier.
Le problème pour nous, il est dans la cohérence. Chaque jour, on nous demande de la frugalité. On a des problèmes de toiture qu'il faut réparer, c'est la croix et la bannière pour avoir les investissements. Dès qu'il faut sortir un euro, il faut batailler.
Mais certains élus nuancent et justifient hors micro la rémunération de Carlos Tavares, qui a sauvé l'entreprise PSA du naufrage, rappelle Christian Lafaye, un ancien syndicaliste force ouvrière tout juste retraité.
Pour moi, Carlos Tavares, c'est le Mbappé de l'automobile. Si on veut un grand capitaine, oui, ça se paye. C'est maintenant 36 millions, bon, c'est démesuré. Si c'était 10 de moins, ça serait peut-être plus audible.
Il s'insurge plutôt des milliards reversés aux actionnaires. Tavares, lui au moins, dit-il, il bosse.
L'exploit ou la porte ce soir à Barcelone. Le Paris Saint-Germain joue sa place en demi-finale de Ligue des Champions à 21h. Soirée spéciale dès 18h sur RMC. Déçu par le résultat du quart de finale aller 2-3, les supporters du PSG croient en une qualification mais attendent une réaction de certains joueurs, dont Kylian Mbappé.
Tout le monde attend vraiment un coup de magie de la part des Parisiens, notamment d'Mbappé.
Les matchs comme ça, c'est les seuls matchs qu'il attend.
Qu'il laisse quelque chose qui marquera à jamais son passage. C'est maintenant ou jamais. On doit donner le meilleur de nous pour la suite.
Match à suivre en intégralité en direct du stade olympique de Montjuïc avec Christophe Dugarry aux commentaires. Libre antenne jusqu'à 1h du matin et à la télé. Le match est à vivre sur AMC Sport 1. Et puis c'est sans doute l'artiste qui tourne sur toutes les playlists des jeunes et des moins jeunes. Eh bien, on va l'entendre un petit peu plus tard. C'est l'artiste Jul, 30 albums, 10 ans de carrière, 3 lettres gravées dans l'histoire du rap marseillais. Jul, qui va faire son premier Stade de France. C'était une rumeur depuis quelques mois. Ça a été officialisé hier par le rappeur de 34 ans. Il devient le 4e rappeur francophone à investir la plus grande arène de France, 80 000 places. Ce sera le 26 avril 2025. Quelques semaines après, il se produira dans la 2e plus grande arène de France, le Vélodrome, et c'est 60 000 places. Le JCLES a tweeté d'ailleurs le compte officiel du Stade de France pour annoncer la nouvelle. Soyez prêts, hein, c'est demain que les places seront mises en vente. Demain.
Pour les deux?
À partir de midi, tout à fait, pour les deux. Ah, mais ça faudra être au taquet.
Il va donc enchaîner Stade de France et Stade Vélodrome en quelques semaines, au printemps 2025. Bah, Jul, oui, qu'on n'arrête plus. Et puis, les courses, bah, là aussi, on ne les arrête pas. Les chevaux, le Quintet Plus, ça sera sur l'hippodrome d'Auteuil, 13h55.
Oui, et le pronostic de la Dream Team RMC, le favori numéro 1, You For Me, l'outsider numéro 8, Camiador, le 1 et le 8, les courses, c'est à vivre en direct sur RMC Découverte.
Évidemment, c'était le journal de Thomas Schnell à 5h39. Tiens, on va aller faire un tour sur l'appli RMC sur Direct Studio pour lire tous vos messages avec Estelle.
Et oui, et notamment sur notre débat du jour, il y a pas mal de réactions et notamment on a Guadin qui nous dit « Je suis père de 3 enfants. Pendant 4 ans, nous avons vécu l'enfer avec notre fils de 14 ans à l'époque et nous avons toujours été présents avec ma compagne. » Et puis on a Olivier qui nous dit également « La solution est de mettre les moyens pour l'éducation et l'animation éducative. »
Ouais, ce débat du jour, hein, sur la violence des ados, des mineurs et le gouvernement qui veut y répondre avec un projet de loi pour durcir les sanctions contre les parents. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement, plus sévèrement les parents de mineurs délinquants? C'est vous qui en témoignez, hein, sur Direct Studio. Ça se passe aussi au 32-16. Et puis, je vous rappelle que c'est l'événement à 100 jours des JO sur RMC. On vous fait gagner vos places. Mais oui, on a gardé les meilleures places, les 100 meilleures places pour les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont à gagner sur RMC, la radio officielle de ces JO.
Et oui, dans chaque émission de RMC aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter vos 2 places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage et bien plus encore.
Mais pour ça, c'est très simple, il faut envoyer un petit SMS. Dès maintenant, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 au 732-16. L'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort, sera en direct tout à l'heure à 6h20. Et vous aurez même le luxe de choisir vos 2 places, pour quelle épreuve, quel jour. C'est vous qui allez le choisir tout à l'heure à 6h20. Si vous êtes tiré au sort, si vous envoyez Paris 2024 au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu tous les matins sur RMC. On retrouve Martin Cadoret. Bonjour Martin.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Bonjour.
Emmanuel Macron le disait hier matin sur RMC concernant les agents de sécurité privée pour les JO. Il y en aura assez, on sera à l'objectif, disait Emmanuel Macron. En même temps, RMC révélait que l'organisation n'avait recensé qu'une partie de ses agents de sécurité privée. Alors Martin Cadoret, où est-ce qu'on en est réellement ?
De son côté, France Travail nous confirme avoir déjà formé 20 000 personnes depuis le début de sa campagne de recrutement en septembre 2022. 16 000, en majorité des demandeurs d'emploi, ont choisi la formation agent de prévention et de sécurité. Et 4 000, plutôt des étudiants, ont effectué la formation grands événements en 3 semaines, spécifiquement mise en place pour ces JO. Sur les 3 derniers mois, entre 5 et 7 000 personnes doivent être formées en plus. Au total, selon ses estimations, France Travail aura formé 27 000 personnes en près de 2 ans. Sauf que c'est un chiffre en trompe-l'œil, analyse un syndicat patronal du secteur. Une partie des chômeurs formés n'a pas attendu le début de l'événement pour trouver un emploi stable dans le secteur sur d'autres missions que les JO. Et puis même si des contrats de travail en prévision de l'événement ont déjà été signés, la moitié ne le sera que cet été. Et là, un syndicaliste du secteur s'interroge. Je ne suis pas sûr que tout le monde signe en voyant son planning, qui risque d'être très discontinu sur ce type d'événement. Et puis enfin, les entreprises attributaires des marchés publics sont pour certaines des petites structures. Un patron s'interroge sur la capacité d'une entreprise qui tourne habituellement avec 100 personnes à en gérer 500 pour les JO. Tout n'est pas noir pour autant. Réussir à aligner 18 000 personnes par jour est un objectif encore atteignable, veut croire le président de la Fédération de la Sécurité Privée, qui imagine lancer une grande campagne de communication pour recruter encore du monde.
Merci Martin. Indiscret, signé Martin Cadoret, le correspondant d'RMC en Bretagne.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h42, ça y est, toute la Dream Team de l'info, la Dream Team du réveil, l'équipe olympique du matin est là. Et oui, en forme olympique, en tout cas tous les matins. Alex Biggerstaff pour la Story Sport dans un instant. Salut Alex.
Salut tout le monde. Le PSG doit gagner avec 2 buts d'écart ce soir pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais qui pourrait marquer ces 2 buts? Vous avez une piste?
Ça commence par Kylian qui finit par Mbappé, ouais. Au hasard, mais j'en dis pas plus. Anthony Morel est là aussi pour C'est Déjà Demain.
Ouais, je vais vous présenter une technologie encore expérimentale certes, mais très prometteuse pour lutter contre le mal du siècle, le mal de dos.
Il y aura le bonus d'Estelle.
Et oui, Soprano annonce enfin son retour.
Ah, nouvel album de Soprano. Et puis tiens, la violence des ados, la violence des mineurs et les sanctions contre les parents. On en parle dans un instant avec Bilal qui veut témoigner au 32-16. Il est éducateur à Paris.
RMC, Charles Matin,
Charles Magnien.
6h15 sur RMC, toute la bande est là. On va découvrir le nouvel album de Soprano dans un instant dans le bonus d'Estelle. Anthony Morel va soulager votre mal de dos. On va évidemment se pencher sur le cas Mbappé. Mbappé très attendu ce soir face au Barça. Ça sera la Story Sport d'Alex. Mais tout de suite, on va accueillir Bilal au 32-16. Bilal, éducateur à Paris. Bonjour Bilal.
Oui, bonjour.
Bilal, ça nous intéresse particulièrement d'entendre votre témoignage ce matin. C'est très important parce qu'on débat, vous l'avez entendu Bilal, c'est ce qui vous a fait réagir au 32-16, de la violence, de la délinquance des mineurs et de ce projet du gouvernement. RMC a pu confirmer les infos, ce projet de loi du gouvernement qui veut sanctionner plus durement les parents des mineurs délinquants. Quand un mineur multiplie les délits, eh bien, ses parents vont voir les peines de prison encourues, les amendes durcies. On parle aussi de travaux d'intérêt général pour les parents de mineurs délinquants. Est-ce que c'est la bonne méthode? D'abord, Bilal, vous qui êtes éducateur, j'imagine qu'au quotidien, vous y êtes confronté à ces enfants, ces ados de plus en plus insolents, voire violents.
Oui, en fait, moi, honnêtement, je suis partagé. C'est que je suis pour et contre. Ça veut dire que je suis pour condamner les parents qui sont démissionnaires, en fait les parents qu'il faut qu'ils se réveillent pour savoir où sont leurs enfants, où traînent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne savent pas à quel moment ils sont où. Ça c'est la première des choses, ces parents-là qui s'en fichent.
Mais ça vous le constatez, moi, vous Bilal, vous avez, vous
oui,
voyez.
Oui, mais il y en a qui malheureusement qui s'en fichent, et il y en a qui apportent une excellente éducation, il y en a qui sont battus pour eux, mais une fois sortis, ça, ils changent totalement. Ça veut dire qu'ils manquent de respect, ils traînent avec des grands de quartier, ils font du n'importe quoi. Et il y a des parents qui sont démunis, ça veut dire qu'il y en a qu'il faut les condamner, ces parents-là, pour les réveiller. Et il y en a, il faut apporter du soutien. Et limite, il faut que le gouvernement, non seulement durcisse des lois pour les mineurs, c'est-à-dire qu'ils les mettent eux en prison parce qu'ils veulent jouer les grands, ils veulent faire des choses qui ne sont pas de leur âge, bah allez-y, allez en prison, allez voir ce qui se passe. Déjà, il faut ça. Et ensuite, il y en a, malheureusement, on peut les sauver. Enfin, heureusement qu'on peut les sauver. Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens sur les éducateurs, mettre des moyens dans des associations pour les grands frères, mettre en moyen des responsabilités, mettre beaucoup de moyens dans les quartiers. Et il y a beaucoup de choses sympas qui se passent, mais sauf qu'on ne le montre pas assez.
Mais justement,
et ça, c'est dommage.
Vous qui êtes éducateur, Bilal, j'imagine, vous nous le dites, vous voyez des familles dans lesquelles les parents sont dépassés. Vous dialoguez aussi avec les parents, vous êtes au contact des jeunes. Vous voyez les parents, quand vous dites aux parents, attention, là, votre enfant, il est en train de dériver, ouais, il est sur la mauvaise pente.
Ouais, mais il y en a qui vont réagir, et il y en a qui ils n'en peuvent plus, tellement que l'enfant fait des conneries, ils n'en peuvent plus. Ils nous disent, aidez-nous, on ne sait même pas quoi faire de eux. On ne sait même pas. Et des fois, il y a des parents, je vous assure, qu'ils ont une éducation irréprochable à la maison. Ils essayent, mais quand un enfant, il commence à faire le grand, il parle mal à leurs parents, ils sont détestables. Ils savent plus quoi faire. Et des fois, il y en a qui n'ont plus de papa, ils n'ont plus de socle à la maison. Malheureusement, il y a des tas de choses sociales qui se passent.
On en parle beaucoup, et ça, vous le constatez aussi, Bilal, dans tous les cas, on l'a constaté lors des émeutes, mais aussi lors des derniers faits de violence, là, ces dernières semaines. Je pense à Hachem Sedine, à Zakaria, à Romans-sur-Isère, à Samara, du côté de Montpellier. On voit beaucoup les mères, les sœurs, les tantes, les grands-mères. On voit peu les pères. Ça aussi, vous le constatez, Bilal?
Mais évidemment, on constate, même les grands frères. Il y a des grands frères, avant, ils jouaient un rôle important. Et aujourd'hui, les petits frères, les grands frères, ils se mélangent aux petits frères et du coup, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de choses. Mais moi, ce que je reproche aussi, c'est le gouvernement. J'aimerais tellement qu'il fasse beaucoup plus de choses, qu'il mette des actions sociales, qu'il mette en place des médiateurs encore plus, qu'il donne les moyens aux jeunes de faire des choses pour les quartiers, de faire des choses. Et je pense que dans le dialogue, soit dans la répression, parce qu'il y a des petits qu'il faut vraiment leur montrer c'est quoi la prison des choses dures, ça c'est vrai. Il y a des parents qui méritent des sanctions, c'est vrai aussi, mais il y en a qui méritent de l'aide, et il faut de l'aide. Donc du coup, il en faut pour tout le monde, il faut vraiment de tout, et c'est la vérité. Et
on l'entend avec votre témoignage, mais il faut les deux jambes, il faut plus de sanctions, vous le dites bien. Pour les parents, certes, mais y compris pour les mineurs. Vous dites qu'ils veulent faire des choses de grands, bah, il faut des sanctions de grands dans ce cas-là.
Non, mais il faut des sanctions, évidemment. Mais il en faut pour tout le monde. Des sanctions.
Mais aussi des moyens pour la prévention, pour tous ceux qui peuvent être sauvés.
Accompagner les parents.
Merci Bilal d'être venu en témoigner, parce que c'est évidemment avec ce qui se passe sur le terrain qu'on comprend mieux ces problématiques. Et puis bon, bah, Bilal, si vous avez 5 minutes là devant vous, on va partager plein d'infos avec vous. Je vois que vous habitez à Paris, donc j'imagine, Bilal, que ce soir vous êtes à fond derrière le PSG.
Ah, moi, je suis pour Marseille à la base. Donc du coup,
Pourquoi pas?
Mais bon,
vous avez le droit d'avoir un défaut.
On va quand même supporter un club français pour l'indice UEFA.
Pour l'indice UEFA. Sympa.
On va le garder, Bilal, parce que c'est rare.
Mais bon, je dis quand même, allez l'OM, hein, allez Marseille quand même. Mais bon, pour jeudi.
Ce sera jeudi soir, ouais, contre Benfica. Bah, nous aussi, on sera derrière l'OM. Alors voilà, ça va être tous ensemble derrière les clubs français. Mais donc ce soir, oui, c'est le PSG qui joue. Soirée spéciale Barça-PSG. C'est dès 18h, hein, sur RMC. Et il y a un nom, Alex, qui va ressortir souvent, évidemment, c'est celui de Kylian Mbappé après son match aller raté.
Et oui, une défaite 3-2 au Parc mercredi dernier, une attitude nonchalante, un joueur qui s'isole tout seul, qui marche et ne court pas, la preuve en chiffres. 3 tirs en un peu plus de 90 minutes de jeu, aucun cadré, un seul dribble réussi, 2 petits duels gagnés, 13 ballons perdus, c'est simple, c'est l'un des plus mauvais matchs de sa carrière. En quart de finale de Ligue des Champions, ça fait tâche.
Ouais, son attitude a beaucoup fait parler. Dans quel état d'esprit est-il là, à quelques heures de ce match décisif?
Eh bien, selon les informations d'RMC Sport, il a déjà conscience de l'image qu'il a renvoyée la semaine dernière. Il doit être exemplaire et déterminé. Surtout, il a déjà commencé hier soir, puisqu'il est apparu très efficace à l'entraînement lors de la séance de tir face au gardien. Les supporters du PSG, en tout cas, veulent croire à la revanche d'Mbappé.
Tout le monde attend vraiment un coup de magie de la part des Parisiens, notamment d'Mbappé.
Les matchs comme ça, c'est les seuls matchs qu'il attend.
Qu'il laisse quelque chose qui marquera à jamais son passage. C'est maintenant ou jamais. On doit donner le meilleur de nous pour la suite.
Et c'est maintenant ou jamais. Avec Mbappé, le sportif est constamment lié à l'image. On peut pardonner un match raté, ça arrive à tout le monde. Mais s'il n'y a pas de changement d'attitude, plus d'efforts collectifs de sa part, avec une élimination en plus à l'arrivée, alors il ne sera pas pardonné, comme prévient Jérôme Rotten.
En termes d'image, en termes d'attitude, là, il joue gros. Quand tu énerves les gens dans ton attitude, il faut être irréprochable. On attendait un état d'esprit différent, un état d'esprit de conquérant, un état d'esprit de grand joueur, de très grand joueur, peut-être le meilleur joueur au monde. Et il ne peut pas fauter sur l'attitude comme il a fauté au match aller.
Et on rappelle que le PSG a 24% de chances de se qualifier pour les demi-finales selon Opta, les spécialistes de la data. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, aucun club français n'a jamais réussi à se qualifier après avoir perdu le match aller à domicile. Raison de plus pour Mbappé de sortir un grand match. Avant le premier acte, il avait dit « je ne vais pas me cacher ». Dernière chance ce soir pour que l'histoire de Mbappé à Paris reste intacte.
24% de chance. Une chance sur 4, hein, c'est ça ce soir.
C'est même un poil en dessous de 24 même.
Ouais, bon,
j'ai arrondi sur te faire plaisir.
Ah bah tiens, je vais faire confiance à Bilal. Bilal, supporter de l'OM, mais est-ce qu'on y croit ce soir pour le PSG, Bilal?
Oui, on va y croire. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, il faut juste être sérieux et que Mbappé soit dans les meilleures conditions.
Exactement. Il faudra un grand Mbappé de toute façon pour l'exploit ce soir. La soirée spéciale commence à 18h sur RMC. Le match ensuite en intégralité en direct du Stade Olympique de Montjuïc avec Dugas, Christophe Dugarry au commentaire, puis la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Bref, grande soirée à vivre sur RMC. Et puis, Anthony Morel, toi ce matin, alors tu vas tous nous soulager, enfin, c'est le mal du siècle, on le dit souvent.
Ouais.
Oui, Estelle, on parle avec toi du mal de dos, un problème qui pourrit la vie de millions de Français. Et tu as une révolution technologique et médicale, un gel injectable qui permet de réparer les disques vertébraux. En fait, une petite piqûre et hop, j'ai plus mal au dos.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est un traitement encore expérimental. Je veux pas donner des faux espoirs aux gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de lombalgie, y compris de lombalgie chronique. Ça a été mis au point par des chercheurs américains. Mais ça pourrait changer la vie de millions de personnes, effectivement. Alors, faut savoir que les lombalgies, alors souvent, c'est lié à la dégénérescence de ce qu'on appelle les disques intervertébraux, qui sont des sortes d'amortisseurs entre chaque vertèbre. Et quand ça s'use ou quand ça s'abîme, ça peut être la vieillesse, un accident, un travail pénible, eh bien, ça peut plus assurer ce rôle de coussin, d'amortisseur, et c'est ça qui génère de la douleur et une perte de mobilité. Et donc là, l'idée, c'est une, il y a même pas besoin d'opération, c'est une petite piqûre où on va injecter un hydrogel, un gel. Alors c'est, j'allais dire, c'est comme quand tu vas mettre la résine dans ton pare-brise et que ça va tout de suite mieux. C'est le même principe. En gros, cet hydrogel qui est liquide à température ambiante, il va se solidifier à l'intérieur du corps comme du ciment qui prend. Donc il va venir se faufiler dans toutes les petites fissures et déchirures des disques abîmés et il va les cicatriser d'une certaine manière avant de durcir et on se retrouve avec des disques réparés qui peuvent à nouveau assurer leur fonction. Encore une fois, c'est expérimental. Sur les premières expérimentations, ça fonctionne très très bien. Ça a été approuvé par les autorités américaines. On attend maintenant que ça arrive en Europe.
Mais on a hâte que ça arrive. En attendant, est-ce que tu as des innovations qui peuvent aider tout de suite là ?
Écoute, il y a une petite application que je vous conseille sur votre smartphone qui s'appelle Doado, D-O-A-D-O, qui a été conçue par des professionnels de santé. C'est une application française, notamment des kinés et qui propose des programmes personnalisés d'exercices à réaliser pour soulager le mal de dos. Donc on vous fait un petit questionnaire médical, parce que si c'est un truc grave, évidemment, on va vous envoyer vers le médecin en priorité, il ne s'agit pas de vous faire mal ni rien du tout. Si tout va bien, si tous les voyants sautent en vert, on va vous proposer des programmes de rééducation, de renforcement musculaire, de prévention.
Il va falloir faire des abdos, je le vois venir.
Ouais, sûrement des petits abdos, petits abdos, ça fait toujours du bien.
Pour le mal de dos, les bons conseils, les astuces et la tech au service du mal de dos grâce à Anthony Morel, à retrouver quand vous voulez, c'est déjà demain en podcast sur l'appli RMC. Et puis on termine en musique avec ton bonus Estelle et le grand retour de Soprano.
Et oui, c'est officiel, 3 ans après l'immense succès de son dernier album Chasseur d'étoiles et la tournée des stades qui a suivi, Soprano annonce enfin son retour en musique. Il l'a fait donc sur YouTube avec une vidéo qui montre les coulisses de l'enregistrement, 20 minutes en studio à Abidjan avec ses musiciens. Alors on n'entend pas les titres de ce disque, mais la manière dont Soprano a créé ses chansons. Et d'ailleurs Freedom sera donc bien le titre de l'album qui sortira le 21 juin prochain, mais on le retrouvera Soprano dès le 8 mai pour un concert exceptionnel sur le Vieux-Port à l'occasion de l'arrivée en France de la Flamme Olympique.
Ouais, un gros printemps pour Soprano, le 8 mai donc le concert pour l'arrivée de la Flamme Olympique et le 21 juin cet album très attendu qui s'appellera Freedom. Et à 5h56, on va remercier Bilal d'être passé par le 32-16 et surtout d'avoir soutenu le PSG en tant que supporter de l'OM. Ça, c'est très sympa. On sera à fond derrière l'OM du coup jeudi soir. Merci Bilal d'être passé au 32-16. Vous aussi, vous continuez évidemment à témoigner en direct sur RMC. Et puis dans un instant, c'est le journal de 6h avec à la une sur RMC le bilan particulièrement meurtrier du mois de mars sur la route. Plus 31% de mortalité. Comment l'expliquer ? Les réponses dans un instant sur RMC. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'actu, toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le terrible mois de mars sur la route, bond de 31% du nombre de tués au volant, recrudescence de victimes, on va vous expliquer ça chez les 18-24 ans.
Comment expliquer cette hausse ? On appelle juste après votre journal le vice-président de la Ligue contre les violences routières.
La violence chez les jeunes, le gouvernement veut sanctionner plus durement leurs parents, le projet de loi est en préparation. Et puis les sports, allumage ce matin de la flamme olympique. Emmanuel Macron met la pression sur les clubs de foot pour les JO, c'est au micro d'RMC. Et Paris à Barcelone ce soir pour son quart de finale retour de Ligue des Champions.
La mortalité routière est donc fortement repartie à la hausse le mois dernier en France.
Oui, c'est un bond de 31% du nombre de personnes tuées sur les routes au mois de mars comparé à il y a un an. Alors à l'époque, les chiffres étaient particulièrement bas, explique la sécurité routière. Elle fait surtout remarquer que les principales victimes sont les 18-24 ans. Ce week-end encore, dans le Tarn, Jean-Wilfried Forquès, une dramatique collision.
Une collision violente aux portes de Saint-Sulpice-la-Pointe en pleine nuit sur une départementale bordée de platanes. Un jeune de 22 ans tué sur le coup. C'est un drame pour les habitants de cette commune tarnaise.
C'est un gamin du village, c'est triste. Quand on fait la fête un peu le soir, eh bien, c'est malheureux, mais on en crève, quoi.
Et pour ce père de famille, cet accident mortel n'est pas très rassurant.
J'ai un enfant qui vient d'avoir le permis il n'y a même pas 6 mois et ça m'inquiète, c'est là. Chaque fois que je lui en parle, fais attention. Malgré cela, il y a quand même des accidents.
Selon Anne Navot, de l'association Prévention Routière, cette augmentation des accidents est liée à la vitesse et elle reproche au gouvernement d'avoir supprimé le retrait d'un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
On voit bien qu'il y a une corrélation entre
ce qui a été annoncé et le sentiment peut-être que finalement la vitesse, c'est pas si grave que ça. Les jeunes payent un lourd tribut sur la route, donc ça veut dire qu'on a une problématique sur les 18-24.
C'est pour cela que l'association est vivement opposée à l'obtention du permis de conduire dès l'âge de 17 ans.
Comment enrayer le phénomène de violence chez les jeunes après les agressions ces derniers jours à Montpellier, Viry-Châtillon, Romans-sur-Isère, ça c'était la semaine dernière, après les émeutes aussi de l'été dernier. Le gouvernement travaille donc à un projet de loi pour renforcer les sanctions contre les mineurs délinquants, mais aussi des sanctions visant leurs parents, selon les informations du journal L'Opinion, que le service politique de RMC est en mesure de confirmer, Cyprien Pézeril.
Pendant les émeutes l'été dernier, Éric Dupond-Moretti lançait aux parents, je le cite, « Tenez vos gosses ». Aujourd'hui, dans le texte qu'il peaufine, le ministre de la Justice entend durcir les sanctions contre des pères et des mères qui se soustraient à leurs obligations. En clair, si leur enfant commet plusieurs crimes ou délits, alors pour ses parents, ce serait 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende contre 2 ans et 30 000 euros jusqu'à présent. À cela pourront s'ajouter, toujours pour les parents, des travaux d'intérêt général. Leur absence aux audiences judiciaires serait aussi sanctionnée. Le gouvernement, qui envisage par ailleurs, dans le cadre de leur contrôle judiciaire, d'accueillir des mineurs délinquants la nuit dans des établissements dédiés. Enfin, le placement en internat, comme le disait Gabriel Attal cet hiver, de jeunes sur la mauvaise pente est toujours sur la table.
À 6h03 sur RMC aux États-Unis, Donald Trump dénonce une persécution politique et dit qu'il a un vrai problème avec le juge qui préside son procès à New York à 6 mois de l'élection présidentielle là-bas. Donald Trump qui est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du porno en 2016. L'image de la soirée, elle nous vient de San Francisco, toujours aux États-Unis, le pont du Golden Gate, bloqué par des manifestants pro-palestiniens hier soir, 6 mois après le début de la guerre et de l'attaque du Hamas. La crainte tient de l'escalade au Moyen-Orient, malgré les appels à la retenue. Déclaration écoutée du porte-parole de l'armée israélienne, c'était cette nuit, qui promet une réponse à l'attaque de l'Iran visant Israël le week-end dernier.
Ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire d'Israël sera accueilli par une riposte.
Et alors dans ce contexte, RMC, vous le révélez hier soir, une enquête au pénal est ouverte à Paris pour faire la lumière sur les incidents du 12 mars dernier à Sciences Po, dans la capitale, quand une étudiante juive, souvenez-vous, a été refoulée d'un amphithéâtre où se tenait une manifestation pro-palestinienne, soupçon d'antisémitisme, Lucille Pascanet.
Ce jour-là, l'amphithéâtre de Sciences Po est bloqué par des militants pour une conférence en soutien à la cause palestinienne. À la tribune, selon l'administration de l'école, des propos, je cite, « accusatoires à l'encontre d'une association juive sont tenus ». L'une de ses membres se voit refuser l'entrée. Elle assure que c'est parce qu'elle est sioniste, ce que démentent formellement les organisateurs, défendus par Maître Vincent Bengrart.
Il n'y a eu absolument aucun espèce de manquement pénal. Cette étudiante n'a absolument pas été ciblée en raison de son appartenance religieuse. Si elle a pu être empêchée d'assister à cet événement, c'est qu'elle pouvait filmer, prendre des photos des personnes qui pouvaient participer à ces événements.
Des photos, des vidéos qui ont pu mener à du cyberharcèlement, assure l'avocat. Il y a un mois, Sciences Po a lancé une enquête administrative à laquelle s'ajoute aujourd'hui cette enquête pénale qui devra déterminer le déroulement exact des faits.
Ce qui est vraiment frappant dans le dossier, c'est l'emballement qui est autour de cette affaire médiatique, de la part de l'administration, de la justice. Il faut que les choses puissent s'apaiser et il faut dégonfler la bulle qui est en train de se créer et qui a mis lieu de l'instrumentalisation qu'on est en train d'en faire.
À l'époque, le gouvernement et même Emmanuel Macron avaient dénoncé des propos parfaitement intolérables, propos que l'enquête devra désormais établir.
Emmanuel Macron qui a pris tout le monde de court hier matin sur RMC en évoquant un plan B, même un plan C pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques si jamais ça devait se produire pour des raisons de sécurité. L'exécutif et les organisateurs ont répété toute la journée hier que cette cérémonie aurait bien lieu comme prévu sur la Seine. À propos des Jeux, plusieurs infos ce matin. D'ailleurs, d'abord, c'est à 11h que sera allumée la flamme olympique dans le berceau de l'olympisme à Olympie, en Grèce. Et alors, sur RMC, Emmanuel Macron met la pression sur les clubs de foot, notamment le Real Madrid, sans doute le prochain club de Kylian Mbappé, que le président espère bien voir au JO. Écoutez-le, c'était hier matin, après son interview sur RMC, au micro d'Apolline et de notre directeur général Karim Nedjari.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire. On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes. Je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi.
Exactement. Quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'euro. J'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, on a le... ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on...
Vous avez parlé de Kylian Mbappé ?
J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère qu'il... que son club, surtout, lui laissera.
Bah tiens, puisqu'on parle de Kylian Mbappé, il est attendu au tournant Kylian Mbappé ce soir, 21h, sur RMC, RMC Sport 1, pour le quart de finale retour de Ligue des Champions de Paris à Barcelone. Les Parisiens ont perdu 3-2 la semaine dernière au quart de finale aller. Ils joueront donc une partie de leur saison ce soir chez le Barça, pas au Camp Nou, hein, le stade habituel, mais au stade de Montjuïc, Valentin Jamin.
Un stade plus petit, 50 000 places, moitié moins que le Camp Nou et plus impersonnel car la piste d'athlétisme repousse les tribunes à plusieurs dizaines de mètres du terrain, explique Joan Souroca, auteur d'un livre sur l'enceinte.
Il a été pensé comme un stade multisport, à la base en espérant accueillir les Jeux de 1936, pas pour le foot. La première année, les deux équipes de la ville y ont joué, mais elles n'ont pas aimé. Il y a aussi du cyclisme, du rugby et même des cérémonies religieuses.
L'autre club de la ville, l'Espagnol Barcelone, y a évolué de 1990 à 2009. Des finales de coupe ont eu lieu ici, mais l'ambiance est plus froide, les prix élevés, l'accès difficile. Résultat, seuls 17 000 socios s'y sont abonnés. Logique, pense Alex, supporter.
Les gens moins attachés n'y vont pas. Les socios doivent se signaler pour aller au match, puis le club décide de leur place. Ce stade fait vieux, l'acoustique n'est pas bonne et donc l'ambiance est bien moins chaude.
À Paris d'en profiter, car même si le stade olympique sera plein, le Barça est moins poussé qu'au mythique Camp Nou que les Catalans retrouveront en fin d'année.
Et à la même heure ce soir, à 21h, l'Atlético qui a gagné 2-1 à l'aller sera à Dortmund pour le match retour. Et vous n'êtes pas très sympa, puisque vous commencez déjà à chambrer Charles au 32-16.
Oui, bah, y a Laurent qui demande à quelle adresse il peut envoyer des mouchoirs pour Charles. C'est pas très sympa.
Bah non.
On va peut-être pleurer de joie aussi. Mais ah oui, bah, j'y crois.
Oui, pardon.
Mais oui, il faut y croire. Est-ce qu'on y croit, Quentin ? L'engagement de Quentin ce matin, attention, 6h08, écoutez bien et rendez-vous demain à la même heure pour vérifier.
Si j'y crois, ouais. J'en ai pas la moindre idée. Mais... j'espère pour toi que le PSG va passer.
C'est pas pour moi, c'est pour la France, c'est pour le football. C'est, voilà,
oui, bien sûr, t'as raison. Va dire ça à Marseille, tu vas voir.
Mais on y croit aussi pour l'OM contre Benfica.
Ce sera jeudi.
Jeudi soir, évidemment, ce sera aussi à vivre sur RMC. Mais donc ce soir, soirée spéciale, ça commence dès 18h. Le match ensuite en intégralité avec Duga. Aux commentaires, notez-le bien. Et puis il y aura l'after, la libre antenne jusqu'à 1h30. Bref, encore une grande soirée de football à vivre ce soir sur RMC. On vivra aussi avant ça le prochain journal de Quentin Vinet. Rendez-vous à 7h. À tout à l'heure. Oui, autre ambiance. À tout à l'heure, Quentin. En attendant de voir le PSG gagner ce soir, vous allez vous pouvoir gagner tout de suite sur RMC vos places pour les JO. Mais oui, on est à 100 jours maintenant des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et sur RMC, on vous a gardé les 100 meilleures places. Vous allez pouvoir les remporter dans un instant.
Et oui, dans chaque émission de RMC aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, 4x4 nage et bien plus encore, Charles.
Oui, il y aura un gagnant dans 10 minutes maintenant avec nous en direct. Pour ça, il suffit d'envoyer un petit SMS tout de suite. Vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16. Et dans 10 minutes, vous êtes tiré au sort. Vous êtes en direct avec nous et vous aurez même le luxe de choisir l'épreuve à laquelle vous voulez assister. Vous allez remporter deux places. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
La sécurité routière, ce mois de mars particulièrement funeste sur les routes de France. En seulement un mois, 254 personnes sont mortes selon les derniers chiffres. Un bilan qui a explosé, un plus 31% par rapport à il y a un an, à la même période. Comment expliquer ces chiffres très inquiétants? On va tout de suite appeler le vice-président de la Ligue contre les violences routières, qui est mon invité dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous. Il est 16h13. 6h13, pardon, sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Oui, il est bien 6h13. Pas de panique. Vous n'êtes pas en retard ce matin au réveil sur la route du boulot. On va appeler tout de suite Pierre Lagache, le vice-président de la Ligue contre les violences routières. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on a besoin de comprendre ce très mauvais bilan publié par la sécurité routière au mois de mars. 254 morts sur les routes françaises. C'est 31% de plus qu'il y a un an à la même période. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'aussi mauvais chiffres. Alors, tiens, d'abord, regardons ces chiffres ensemble, Pierre Lagache, avant de les expliquer. Qui sont les victimes? Qui sont les morts? Ces 254 morts sur les routes, est-ce que ce sont des piétons, des cyclistes, des motards en particulier?
Écoutez, ce qu'on observe, c'est que ça touche à peu près tous les usagers de la route, avec une particularité, c'est que les jeunes sont une fois de plus malheureusement particulièrement touchés. On a plus 23 tués dans la catégorie des 18-24 ans. Une fois de plus, les jeunes paient un lourd tribut, donc ça c'est vraiment, ça ajoute au drame, si vous voulez.
Et ça c'est un début d'explication dans ces chiffres en hausse, c'est du côté des jeunes qu'il faut chercher. Est-ce qu'il y a un relâchement particulier, moins de conscience du danger du côté des jeunes?
Ben, si vous voulez, c'est un phénomène quand même assez général, puisque et qui n'est pas tout à fait nouveau. Hein, ce chiffre est très mauvais. C'est vrai que 31% de morts en plus de mois à mois, c'est un résultat qui n'a pas été observé depuis plus de 10 ans en France. Mais ce qu'on observe, c'est que la dégradation, elle démarre au mois de septembre dernier. Donc depuis 7 mois, nous avons un bilan qui se dégrade au niveau de la sécurité routière. Depuis septembre, nous avons en moyenne, de septembre à mars 2024, nous avons à peu près 10% de tués sur les routes en moyenne en plus sur les routes françaises. C'est une vraie inflexion, c'est une véritable dégradation qui nous inquiète fortement.
Alors qu'est-ce qui est en cause dans ces très mauvais chiffres? Est-ce que c'est la vitesse? On parle aussi de l'alcool, des stupéfiants. Quel est le point noir là en ce moment?
Là aussi, globalement, il y a un ensemble de facteurs, mais ce qu'on observe, c'est une dégradation du comportement. Voilà, l'inflexion est suffisamment forte pour qu'il y ait un lien avec un problème global de comportement. Nous dénonçons depuis des mois et des mois l'absence de politique de sécurité routière dans ce pays. Depuis 2018, aucune mesure significative depuis le 80 km/h n'a été prise niveau
Pierre
national.
Lagasse, je vous permets, il y a des mesures, mais qui vont peut-être pas dans votre sens, en tout cas à vos yeux. Par exemple, depuis le 1er janvier dernier, il y a eu un assouplissement sur la perte de points. Les conducteurs contrôlés pour un petit excès de vitesse inférieur à 5 km/h ne perdent plus de points depuis le 1er janvier. Il y a toujours l'amende, mais il n'y a plus la perte de points. C'est une politique de sécurité routière. C'est juste que...
Vous avez raison, non, ce n'est pas une politique de sécurité routière, c'est une politique d'insécurité routière, parce que tous les experts étaient clairs sur ce sujet. Le fait d'assouplir le permis à points est une très mauvaise mesure, parce que ça envoie un mauvais signal à la population. Ça veut dire clairement, nous ne nous occupons plus de la sécurité routière. Il y a eu des propos très clairs du style « il faut arrêter d'emmerder les Français, les Français adorent la bagnole ». Voilà, tous ces signaux, si vous voulez, renvoient à la population le fait que la sécurité routière n'est plus une priorité, alors que la situation se dégrade, alors qu'elle reste la première cause de mortalité de nos jeunes.
Pierre Lagasse, vous êtes vice-président de la Ligue contre les violences routières, je le rappelle. J'aimerais qu'on écoute Miloud, qui vient de composer le 32-16 depuis l'Oise, depuis Beauvais. Bonjour Miloud. Allô Miloud, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Moniteur d'auto-école, c'est ça Miloud?
C'est cela, oui, depuis 33 ans même.
Eh bien, Pierre Lagasse pointait justement le lourd tribut payé par les jeunes, les 18-24 ans, dans ces mauvais chiffres de la sécurité routière. En tant que moniteur d'auto-école, vous les voyez tous les jours, ces jeunes futurs conducteurs. Est-ce qu'ils ont moins conscience du danger?
Ah, tout à fait, tout à fait. En plus, je vous appelais parce que on a tellement édulcoré le code qu'ils ne connaissent même pas les panneaux. Toutes les règles de priorité à droite ou toutes les règles de priorité de circulation, ils ne les connaissent pas parce que ça n'existe plus dans le code.
C'est-à-dire dans l'examen du code, on l'a rendu trop
Exactement.
Facile, c'est ça?
À mon avis, oui. Et c'était, de toute façon, c'était prévisible. Hein. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on en parle avec les collègues et c'était évident. Là, on est de plus en plus embêtés, nous, en voiture, et on passe des heures et des heures à leur expliquer ça, alors qu'il y a 20 ans, ça passait comme une lettre à la poste, quoi. Donc, ça fait partie. C'est pas uniquement ça, mais ça fait partie quand même. C'est un facteur. Hein. Ça, c'est sûr.
Oui. Donc, j'allais dire, on a trop facilement le permis. En tout cas, on a trop facilement le code. Pierre Lagasse, ça vous confirme, on a un peu trop édulcoré la facilité avec laquelle on obtient le permis de conduire?
Oui, il y a une réforme en profondeur à imaginer là sur les permis de conduire. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a d'un côté des chercheurs dans les sciences comportementales et cognitives qui sont capables d'apporter des solutions. Aujourd'hui, comment finalement responsabiliser davantage ces jeunes? Comment leur faire comprendre et leur faire approcher ce qui est véritablement le risque? On a aujourd'hui des solutions, mais encore faut-il les mettre en application. Encore une fois, globalement, à partir du moment, si vous voulez, où la sécurité routière n'est plus un sujet, il est déserté à tous les niveaux. Et ça se traduit également dans le continuum éducatif, bien évidemment.
Oui, on entend bien avec vous, Pierre Lagage, que c'est une solution globale, parce que toutes les catégories sont particulièrement touchées par cette mortalité routière. C'est plus 31% du mois de mars, et c'est donc une réponse politique globale de sécurité routière que vous attendez. Vous dénoncez, hein, je note vos mots, une politique en ce moment d'insécurité routière de la part du gouvernement. Ce mot d'ordre de ne pas emmerder les automobilistes que vous dénoncez ce matin, Pierre Lagage. On va remercier Miloud, un moniteur d'auto-école, d'être venu témoigner. C'est très intéressant aussi sur la facilité avec laquelle désormais les jeunes obtiennent le code de la route et sont peut-être moins bien formés aujourd'hui lorsqu'ils prennent le volant pour la première fois. Merci encore Pierre Lagage, vice-président de la Ligue contre les violences routières, d'être venu avec nous ce matin tenter de comprendre ces mauvais chiffres de la sécurité routière. Et vous n'hésitez pas, vous aussi comme Miloud ce matin, à venir réagir. Ça se passe évidemment au 32-16. Il est 6h20 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso, on parle économie avec Victor Joannin. Bonjour Victor.
Bonjour Charles. Et oui, on parle d'impôts et d'un sondage qui ne va pas plaire à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 6h22 sur RMC, attention, on va s'occuper de vos impôts.
RMC, Manu Conso.
Oui, l'économie avec Victor Joannin. Et ce sondage, les Français pensent majoritairement que les impôts ont augmenté depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, il y a 57%, 30% qui ont le sentiment que les impôts ont stagné depuis 2017 et seulement 10% qui pensent que la fiscalité s'est allégée. Dans le détail, c'est les impôts sur les successions, les impôts locaux, l'impôt sur le revenu qui sont les plus décriés par les Français. Ça, c'est un mauvais signal pour l'exécutif hein, qui fonde sa politique économique sur la baisse d'impôts. Visiblement, ça n'imprime pas chez les Français. Et les Français qui n'ont pas eu le sentiment que les différentes mesures depuis 2017 ont marché. Les suppressions de la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle, la défiscalisation des heures supplémentaires. Factuellement, le poids des prélèvements obligatoires sur les ménages a bien baissé depuis 2017.
Oui, mais pourtant, les Français ressentent l'inverse. Ah oui, voilà. Comment l'expliquer ?
Alors, selon ce sondage réalisé par Opinionway pour les Échos, les Français ont aussi du mal à estimer combien ils payent d'impôts. Et donc, finalement, le poids de la fiscalité est mal connu. C'est vrai, on sait pas vraiment quel est, par exemple, notre taux d'imposition marginal. Autrement dit, combien on paye d'impôts sur la tranche la plus haute de nos revenus. On peut peut-être aussi avoir une autre explication et constater qu'avec la forte inflation, tout augmente, les prix dans les supermarchés, mais les salaires aussi, et donc les impôts qui sont indexés sur ces salaires. C'est vrai qu'en espèces sonnantes et trébuchantes, on paye plus d'impôts sur le revenu aujourd'hui qu'en 2017. La taxe foncière également a augmenté parce qu'elle est indexée sur l'inflation, et ça, c'est pas directement la faute du gouvernement.
Oui, si je comprends bien, le pourcentage, même s'il ne change pas ou même s'il baisse, à la fin, le montant sonnant et trébuchant, il augmente
mécaniquement.
Et ça explique le ressenti des Français. Sans C'était doute. Manu Conso avec Victor Joannin.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Mais oui, c'est parti pour gagner vos places pour les JO. Et ce matin, c'est Emmanuel qui a été tiré au sort depuis l'Isère. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va Emmanuel ?
Oui, ça va, merci.
Ah bah ouais, voilà une belle journée qui commence.
Ouais, super, ouais.
Vous êtes levé tôt pour le boulot ?
Ouais, je suis sur la route, là.
Sur la route, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emmanuel ?
Je suis commercial.
Commercial, et bah voilà une journée qui va bien débuter, oui, parce que vous avez gagné, ça je vous l'annonce. Vous avez deux places pour les épreuves des JO, mais alors attention, Emmanuel, il va falloir choisir.
Et oui, vous avez soit vos deux places pour de l'escrime le 1er août au Grand Palais à Paris, ou alors vos deux places pour la finale de handball féminine qui se déroulera le 10 août à Lille.
Alors Emmanuel, le
hand ou l'escrime ? On va supporter les filles.
Ouais, les filles du handball.
Championne
olympique, très bon choix. Ouais, bon choix. Tout le monde valide ici. Ouais, énorme chance de médaille et donc de voir les filles lors de cette finale de hand féminine. Ce sera le 10 août au stade Pierre Mauroy à Lille. Ce sera évidemment à vivre sur RMC, la radio officielle des JO. Mais pour vous, Emmanuel, ce sera encore plus fort. Ce sera la véritable expérience au stade pour supporter les filles du hand et vivre sûrement, on l'espère, on y croit, la médaille d'or des filles.
Je suis jaloux.
Ouais, voilà. Tout le monde est jaloux ici, Emmanuel. Bah, amusez-vous bien.
Oui, il me reste une place, j'emmènerai quelqu'un avec moi alors.
En tout cas, Victor est candidat, voilà. Si vous n'avez pas trouvé, d'ici le 10 août, Emmanuel, Victor Joannin est candidat pour vous accompagner.
Eh bien écoutez, je remercie RMC et puis je remercie la Dream Team du matin.
Eh ben, on vous remercie aussi. Eh ben, vous en faites partie, Emmanuel. On est tous ensemble dans cette Dream Team du matin. Les Leftos récompensés sur RMC. Les meilleures places pour les JO, évidemment. Vous continuez à jouer, d'ailleurs. Vous faites comme Emmanuel. Vous envoyez un petit SMS. Paris 2024 au 732-16. Paris 2024 au 732-16 par SMS. Et le prochain gagnant, c'est tout à l'heure, dans Apolline Matin, avec Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline.
Salut Charles, bonjour tout le monde. Excellent réveil à tous, vous m'avez manqué hier. Bon, j'étais un peu occupée, j'étais avec le président. Mais cela dit, honnêtement, je serais bien passée par ici avant. Non mais franchement, mais je vous ai en tout cas bien sûr écouté. 6h26, bonjour à tous et bon réveil. On est ensemble donc jusqu'à 9h avec aujourd'hui une question. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les parents des mineurs délinquants? C'est le projet du gouvernement soutenu par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui veut alourdir les peines qui existent déjà aujourd'hui pour les parents, jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est vraiment dissuasif? Dites-nous au 32-16, avec évidemment quand même toujours cette question, comment distinguer les parents qui, effectivement, de manière tout à fait coupable, abandonnent totalement et ne font pas face à l'éducation de leurs enfants, et ceux qui sont tout simplement débordés, souvent des mamans solo. Venez nous dire aussi si vous vous en sortez avec vos enfants, tout simplement. On vous attend au 32-16. Notez qu'à 8h30 sur cette question-là, on aura deux invités, retour de terrain, véritablement, avec un maire et une juge. Un maire, c'est Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, la ville qui, vous le savez, a non seulement subi des dégâts terribles pendant les émeutes, mais qui a connu le drame de Chamsidine il y a deux semaines. Et puis la juge, ce sera la magistrate Béatrice Brugère. Elle est aussi mon invitée, son franc-parler. Elle estime d'ailleurs qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas suffisamment confrontés à la réalité de la sanction. Ça, ce sera donc à 8h30. Et puis surtout, n'oubliez pas, à J-100 de l'ouverture des JO à Paris, on continue à vous faire gagner les places pour les Jeux. Deux places dans chaque émission d'RMC pour assister aux épreuves des JO ou à la cérémonie d'ouverture, à la finale du 100 mètres, judo, tennis de table pour assister aux épreuves. C'est simple, vous envoyez tout de suite Paris 2024, Paris 2024 au 732-16 et le gagnant sera avec nous à 8h20. Bonne chance à tous.